La revue de presse de Lionel Thompson.
Bonjour. J'ai une sympathie politique pour la Corée du Nord. De qui peut bien être cette confidence surprenante? De Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, avec lequel s'est entretenu Aude Lancelin pour le JDD. Qui d'autre que lui pourrait bien déclarer une chose pareille avec aplomb sans redouter la mise au ban, s'interroge la journaliste. Lanzmann, qui a 91 ans et malgré la douleur d'avoir perdu récemment son jeune et unique fils, continue son travail de réalisateur. Il sort un film, Napalm, qui sera présenté au Festival de Cannes, un film où il revient sur un coup de foudre passé en 1958 pour une jeune femme lors d'un voyage en Corée du Nord. La Corée du Nord, donc, pour laquelle le réalisateur explique sa relative bienveillance par son passé de lutte contre la guerre de Corée dans les années 50. Comme Jean-Paul Sartre, rappelle-t-il, c'était une guerre dégueulasse de destruction massive. Les Américains y ont déversé plus de 3 millions de litres de napalm. Il y a eu là-bas des millions de victimes civiles, ajoute l'auteur de Shoah. Une liberté d'esprit et un certain plaisir sans doute à prendre le contre-pied de ses contemporains alors que l'entretien s'est déroulé dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Lanzmann confie « La situation de la France ne me paraît pas pré-hitlérienne. Il y a des institutions solides. Il joue à se faire peur. Moi, je n'ai jamais eu peur du Front National. Marine Le Pen n'a pas la moindre chance de gagner. » La suite lui a plutôt donné raison, jusque-là au moins. Claude Lanzmann, qui a malgré tout voté Macron dès le premier tour, plutôt par méfiance à l'égard de la gauche, souligne Aude Lancelin. C'est à lire donc dans le JDD.
Emmanuel Macron qui continue à faire bien sûr la une des journaux avec la passation de pouvoir aujourd'hui.
Oui, si vous étiez en Patagonie ces dernières semaines et que vous n'avez rien vu, rien lu, rien
Patagonie,
entendu...
Patagonie, parce que le lièvre de Patagonie voilà. Est le titre du livre que Claude
voilà,
Lanzmann avait
publié. Mais quelle référence. Rassurez-vous, donc vous pouvez vous rattraper pour tout savoir sur le nouveau président français qui monopolise les gros titres. Une autre histoire commence, titre ainsi Le Parisien, qui détaille en page intérieure le déroulement de cette journée de passation de pouvoir et revient sur les relations particulières entre Emmanuel Macron et François Hollande sous le titre « Ils se sont tant aimés ». Étant déçu. Le Parisien qui n'oublie pas la petite touche people en consacrant à nouveau un article à Brigitte Macron qui, selon le quotidien parisien, continuera à jouer un rôle clé aux côtés du nouveau chef de l'État, même si on ne saisit pas bien de quel rôle il s'agit exactement. Un peu plus sur le fond, le JDD insiste, lui, sur le chamboulement du paysage politique que veut provoquer Emmanuel Macron. Le dynamiteur, titre carrément en une l'hebdomadaire, un titre un peu tonton flingueur, l'un des films fétiches, paraît-il, du nouveau président. En page intérieure, c'est Macron, l'onde de choc. Le JDD qui souligne qu'il est rare de ne pas avoir d'indication plus précise sur l'identité du futur Premier ministre, une semaine après l'élection. Au petit jeu des pronostics, l'hebdomadaire parie tout de même, lui aussi, comme le Parisien d'ailleurs, sur Édouard Philippe, proche d'Alain Juppé et député-maire Les Républicains de la ville du Havre, dont on parlait il y a quelques instants. Le JDD qui rappelle qu'il n'y a pas que sur le plan politique qu'Emmanuel Macron souhaite disperser et ventiler façon puzzle. L'hebdomadaire rappelle que le nouveau chef de l'État entend renouveler ou confirmer dans les 6 premiers mois les 250 directeurs d'administration afin de s'assurer de leur loyauté. Un spoil system à la mode américaine, soulignent les auteurs de l'article. Le JDD qui rappelle enfin qu'en matière sociale, Emmanuel Macron veut également aller vite et fort, et notamment avec une nouvelle réforme du Code du travail par ordonnance. Attention, prévient toutefois l'hebdomadaire, les syndicats hier désunis le sont beaucoup moins aujourd'hui. Éric Amtaz, dans Le Canard enchaîné cette semaine, rappelait d'ailleurs lui aussi quelques réalités qui pourraient amener le nouveau président à tempérer quelque peu ses ardeurs. Chacun sait, et lui le premier, qu'une bonne partie de ses électeurs, de droite, de gauche ou d'ailleurs, n'ont pas voté pour son programme et ses idées, mais contre le populisme, la xénophobie ou l'impéritie de Marine Le Pen, estime l'éditorialiste, avant de conclure, ce n'est pas gagné d'avance. Dans les hebdos de gauche cette semaine, plutôt que de titrer sur Emmanuel Macron ou la passation de pouvoir, certains préfèrent d'ailleurs se concentrer sur la prochaine bataille, celle des législatives à venir, et maintenant le troisième tour, titre Politis. Mais la gauche se présente très divisée, ce que déplore l'Humanité dimanche dans un article consacré à ces législatives qui souligne que si pour la première fois depuis 1969, la gauche de transformation sociale est majoritaire à gauche, elle risque de dilapider ce capital. Et l'auteur ajoute que des candidatures uniques à gauche pourraient permettre l'élection de près de 200 députés, mais les divergences de fond entre le PS et le reste de la gauche rendent cette hypothèse peu probable. On pourrait ajouter qu'il n'y a pas qu'entre le PS et le reste de la gauche qu'il y a mésentente, mais aussi entre le PCF et la France insoumise. Plus anecdotique, et pour en revenir à la passation de pouvoir elle-même, Le Huffington Post donne aujourd'hui sur son site la parole à Pierre Servent, spécialiste des questions de défense, qui défait le mythe des fameux codes nucléaires qu'un président sortant est censé confier à son successeur. Ces codes ont bien existé, De Gaulle les aurait même glissés, paraît-il, dans sa montre, de peur de les perdre. Et Mitterrand, ce grand distrait, les aurait bel et bien perdus, dit la légende, en envoyant au pressing la veste qu'il portait le jour de sa passation de pouvoir avec Valéry Giscard d'Estaing, veste dans la poche de laquelle il aurait glissé le papier sur lequel étaient notés les codes, rappelle l'article. C'est tellement gros qu'on peine à le croire.
Jacques Attali a raconté, il a dit que c'était vrai, hein, qu'il avait dû envoyer un motard.
Alors si Jacques Attali le dit, ça doit être vrai.
Chercher la veste en question.
Mais Pierre Servent rappelle, lui, quelques réalités moins folkloriques. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'un code pour déclencher le feu nucléaire. C'est en réalité un code qui permet d'identifier le président comme le chef des armées au cas où il devrait donner l'ordre de déclencher le feu nucléaire. Et puis aujourd'hui, les moyens de communication et d'identification sont modernes et des dispositifs biométriques et de reconnaissance vocale ont remplacé ces codes. Fini donc les bouts de papier qui partent au pressing. Et ce n'est même pas le chef de l'État sortant qui les confie à son successeur. C'est en réalité lors d'un autre entretien entre le nouveau président de la République et son chef d'état-major particulier que le chef de l'État est briefé sur les procédures. Cette rencontre a lieu dans le PC Jupiter, le cœur du commandement militaire situé sous l'Élysée, explique Pierre Servent. Et le président sortant, lui, que devient-il ? C'est Le Monde qui s'en préoccupe dans son édition du week-end en revenant sur la semaine qui a bouleversé la vie politique, son titre de une. En page intérieure, la journaliste Laurence Jay a suivi la dernière semaine de François Hollande et en tire un long article, fin de saison à l'Élysée, où elle décrit un homme un peu désabusé qui a assisté au triomphe de son ancien conseiller en spectateur. « Êtes-vous d'humeur crépusculaire ?» lui demande la journaliste. « Non, mais pas Badine non plus », lui répond celui qui n'est plus président pour quelques jours à ce moment-là. François Hollande cache son spleen derrière ses blagues, mais au travers de cet article transparaît le vertige face au vide qui attend cet homme pour qui la politique était tout jusque-là. Comment imagine-t-il d'ailleurs cet avenir ? « Personne ne vous demande d'arrêter », explique le désormais ex-chef de l'État, et d'ajouter « Moi, je ne l'ai pas dit, car je ne le ferai pas. Dire qu'on arrête alors qu'on n'arrête pas, c'est le pire. » On peut donc s'attendre à voir François Hollande continuer à intervenir dans le débat politique.
Un autre événement qui préoccupe les journaux ce matin, c'est la cyberattaque qui a frappé des dizaines de pays, dont la France, hier.
Oui, le Courrier Picard, par exemple, a choisi de consacrer sa une à cette attaque informatique. Une une en mode Matrix, ligne verticale de chiffres verts sur écran noir et un titre « Cyber attaque mondiale » qui rappelle l'aspect inquiétant de cette attaque sans précédent. Le quotidien Picard qui propose un décryptage de ces logiciels malveillants. Le journal L'Union qui titre « Au cœur d'une cyberattaque » propose lui aussi d'expliquer comment ces logiciels malveillants fonctionnent. L'attaque également en une du Monde sous le titre « Une cyberattaque frappe la planète ». Le quotidien du soir explique que les logiciels malveillants, le logiciel malveillant qui a frappé hier exploite une faille des systèmes Windows que les services secrets américains, la NSA, avait repéré depuis longtemps, mais sans la rendre publique. Une pratique dénoncée par de nombreux experts en sécurité informatique, rappelle Le Monde, qui reprend un tweet publié hier par le lanceur d'alerte Edward Snowden à propos de cette cyberattaque. Si la NASA avait révélé l'existence de cette faille de sécurité lorsqu'ils l'ont découverte, tout cela ne serait pas arrivé. Vous n'avez pas été piraté, vous, Patricia ?
Non, je crois pas. Merci, Lionel Thompson.
La météo ? Avec la carte week-end Hop Air France, des réductions sur plus de 60 lignes en France. Rendez-vous sur airfrance.fr ou hop.com. Hop, vous y êtes.
Ah, Météo France, Jean-Pierre Rameau, les Bretons vont être contents puisque le soleil revient chez eux.
Effectivement, le soleil revient en force dans le Grand Ouest. En revanche, une perturbation progresse toujours vers les Hauts-de-France, l'ouest de la région parisienne et du centre. Elle intéresse toujours les Pays de Loire, le Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine, ainsi que la région Midi-Pyrénées. Les pluies associées se produisent sous forme d'averses localement orageuses. Plus à l'est des Savoies au Grand Est, en passant par la Franche-Comté, la nébulosité reste importante et s'accompagne encore de nombreuses averses. Cet après-midi, les éclaircies gagnent du terrain et s'installent de l'Aquitaine à la Bretagne et de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais. Partout ailleurs, vous conserverez un temps instable avec des pluies localement orageuses, excepté autour de la Grande Bleue où le soleil fera de la résistance. Les températures cet après-midi proches des normales évolueront entre 17 et 22 degrés. Elles seront plus chaudes dans le sud et le sud-ouest. On attend 24 degrés à Montauban et à Perpignan et jusqu'à 25 degrés à Toulouse ainsi qu'à Nîmes.